Domenico Laporta, bonjour, très heureux de vous retrouver à Cannes, donc The Place to Be en tant que factotum du cinéma en général, on peut le dire, non ? Un homme à tout faire ou
Ouais, un homme à tout faire qui a tout fait.
Alors votre actu, ben, c'est Largo Winch, le prix de l'argent, justement une projection très intimiste ce jour. Film d'Olivier Massé de Passe, que vous avez co-scénarisé avec Giordano Ciderlini. Assez surprenant d'ailleurs comme association, même si Giordano a déjà travaillé avec Olivier, mais enfin c'est l'homme de la Gili. Comment vous faites comme association
Une petite astuce. Donc, j'ai pas travaillé avec Giordano parce que Giordano en fait avait écrit une première mouture du scénario. Et puis pour des raisons budgétaires, on n'a pas pu tourner ce scénario, qui était encore trop cher à l'époque. Et finalement, on a décidé, quand moi je suis arrivé sur le projet, on a décidé de partir dans une nouvelle direction. En fait, j'ai remplacé Giordano, qui lui n'avait plus le temps, il était occupé avec ses propres projets. Et donc on a réécrit un scénario, on est reparti de zéro. Ouais. Donc son nom, évidemment, toujours au générique, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le film, sur les personnages, etc. Mais on est parti dans une histoire complètement différente. Moi, mon co-scénariste, c'est Olivier. On a travaillé ensemble pendant toute la procédure, vraiment en tandem avec... j'écris, je lui envoie, il me réécrit, il me renvoie. Enfin, c'était vraiment du ping-pong jusqu'à la fin, jusque pendant le tournage.
Vous étiez fan de la série, Largo Winch ?
Pas vraiment, non, on ne peut pas dire ça.
Vous avez repris les 24 albums parcourus
J'en avais lu certains, dont les deux... qui ont servi de base d'inspiration à cette histoire, mais de toute façon, c'est pas l'histoire. La prémisse est la même, mais après, étant donné aussi que le monde a changé, notamment le monde de la finance a beaucoup changé depuis ces deux albums qui ont été écrits, scénarisés par Van Hamme. Ici, on est parti sur des mécanismes beaucoup plus modernes et aussi des considérations beaucoup plus modernes aussi. Voilà, sans spoiler, le film est assez actuel, notamment. C'est un film qui est aussi sous influence des nouveaux génies de la finance, que sont Elon Musk, des gens comme ça. Donc on est parti sur un Largo beaucoup plus, qui donne des keynotes, voilà, ce genre de trucs. Tandis qu'à l'époque, notamment à l'époque aussi des deux premiers films, c'était pas du tout tendance encore, et puis c'était pas d'actualité.
Deux films déjà, 2008 et 2011. Vous avez revu les films, je suppose.
Oui, bien sûr, je les avais vus à l'époque, je les ai revus. Et là aussi, l'idée, c'était de se démarquer, de faire un Largo Winch beaucoup plus mûr, beaucoup plus moderne, et aussi de partir sur un Largo à l'écoute aussi de la nouvelle génération, puisque le film est aussi... Il y a une grosse composante du film qui est Buddy Movie. Donc on a deux protagonistes principaux. Et voilà, le ton du film est assez différent du ton des deux films de Jérôme Salle. Et c'était aussi voulu, d'accord, en accord avec les deux producteurs.
Et donc, c'est toujours Thomas Sisley. Il a évolué, je veux dire, est-ce que physiquement aussi, intellectuellement, enfin, est-ce que tout ça implique un scénario un peu différent ?
Oui, on avait envie de faire un Largo qui est père, déjà, donc, qui est quelqu'un qui a franchi un cap dans sa vie, donc ça continue l'histoire de Largo Winch 2 quelque part, mais on est 13 ans plus tard, et donc on a un Largo qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus en réflexion sur le prix de l'argent, ce qu'il doit faire de son argent, comment il est dépensé, quelles sont les conséquences, tout ce qui se cache dans les coulisses des médias, parce que c'est bien de montrer une certaine image, derrière il y a des choses qui se passent, et ça c'est tout à fait réaliste. Nous on s'est inspiré de vrais mécanismes qui existent aujourd'hui dans le monde, et Tomer était très à l'écoute de ça, il avait envie aussi de donner cette image là maintenant Tomer est Tomer, je veux dire, il s'est beaucoup entraîné pour le rôle de Largo. Physiquement il est tout à fait en forme, je crois qu'il ne cache rien dans le film, et il est très peu doublé, donc il y a beaucoup de performances physiques de la part de...
C'est vrai que de par nature, c'est déjà un sportif aussi. Hein,
tout à fait.
Touche internationale, quand même, à chaque fois, Christine Scott Thomas, Sharon Stone, James Franco qui arrive pour ce troisième volet. À quelle époque est-il arrivé dans le process, et est-ce que ça influe en tant que scénariste votre travail ?
Alors oui, tout à fait. Donc on avait déjà une mouture du scénario qui était finie, qui était complète. C'est sur cette mouture-là qu'il s'est décidé pour le rôle, quand ça lui était soumis. Mais quand il est arrivé dans le processus, on a quand même pas mal adapté. On tient compte de tout avec James Franco. Donc, on tient compte de ce qu'il a traversé dans sa vie, etc. Donc, on lui donne un rôle qui a une résonance à plein de niveaux. Et je pense que c'est pour un mieux. Et au final, il a aussi un petit peu participé au dialogue et des choses comme ça, parce que, bon, lui s'exprime évidemment en américain. Le personnage est censé être aussi anglo-saxon. Et donc, voilà, moi, j'ai écrit des répliques en anglais avec Olivier. Et ensuite, lui, certaines ont été revisitées. Et puis, il a contribué un petit peu au rôle. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est ce qu'il y a de mieux, finalement. Parce que c'est comme ça que l'acteur se sent le mieux dans le rôle qui est écrit pour lui.
Est-ce que, pour des vedettes d'un tel niveau, est-ce qu'on envoie le scénario à ses assistants, ses agents? Est-ce que ça fait un parcours avant d'être validé?
Alors ça, c'est plutôt le rôle de la production. Mais effectivement, oui, ça, c'est pas... On lui envoie pas sur WhatsApp et on n'a pas les retours en temps réel. Il y a quand même un... C'est des gens qui sont aussi, bon, comme moi, je dis représentés. Il faut passer par les étapes nécessaires. Et tant mieux, parce que comme ça, ça permet de ne pas envoyer n'importe quoi non plus. On réfléchit avant d'envoyer quelque chose.
Chez de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains ont, dans des productions quand même assez importantes, amènent leurs scénaristes sur le plateau. Vous avez été en Bulgarie, en Thaïlande?
J'aurais pu, l'invitation était ouverte, mais j'ai d'autres projets. Donc mon truc, c'est écrire, c'est pas vraiment tourner. Mais par contre, il y a une partie du film qui a été tournée en Belgique et pas des moindres. Il y a quand même une grosse partie qui a été tournée en Belgique, donc je suis allé sur le tournage en Belgique.
Marchienne notamment, qui ressemble tout d'un coup à
la Birmanie. Ouais. Oui, donc le truc, c'est que... Personne ne reconnaîtra la Belgique dans le film, et c'est d'ailleurs une des grandes prouesses du film. On a vraiment l'impression d'être là-bas. Donc oui, là, je suis allé sur le tournage, mais je dois dire, contrairement à d'autres prods où je vais sur le tournage et puis il y a des réécritures qui sont faites à la volée sur le tournage, etc., en fonction des différentes contingences, ici, c'était vraiment un spectateur.
Alors, on parle justement des États-Unis. Il y a eu le choc et le chaos l'année dernière avec la grève des scénaristes embranché par les comédiens. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, les plateformes, est-ce que pour vous, je veux dire, européens, ça a le même impact? Est-ce qu'il y a la même angoisse? Et est-ce que ces grèves ont apporté quelque chose?
Moi, ça m'a apporté quand même pas mal de boulot, ces grèves. Parce qu'en Belgique, on ne faisait pas grève. Donc forcément, il y a beaucoup de développement qui a été fait en Europe, de films qui maintenant sont en train d'être poussés aux États-Unis, mais qui ont été développés pendant la grève, de scénaristes non syndiqués comme moi, donc moi je ne suis pas syndiqué. Donc ça, c'est pour le côté union, donc le côté revendicatif, on va dire, du métier de scénariste. Mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle, après, il faut vivre avec son temps. Moi, j'ai toujours été assez branché techno.
Modernité. Hein.
Modernité. Et donc, moi, je trouve que c'est un outil qui est plus utile qu'autre chose. J'utilise régulièrement l'intelligence artificielle dans mon travail. Après, je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour me donner la réplique ou pour écrire l'histoire à ma place, évidemment. Donc, mais par contre, c'est...
Mais ça peut arriver. C'est un risque, finalement, dans des petites productions où...
Alors, oui, mais pas encore à l'heure actuelle. Honnêtement, on a encore un peu de distance à parcourir. Là où ça peut être utile, c'est que des fois, ça permet de donner... On peut interroger un bot comme ChatGPT sur une scène et lui demander s'il a compris la scène avec des questions particulière, quelle est l'émotion de la scène, qui est le gentil, qui est le méchant, etc. Si lui ne comprend pas, quand je dis lui, c'est ChatGPT, si le robot ne comprend pas, il est plus que probable que l'audience ne comprendra pas non plus, donc ça permet de valider certaines
intéressant
choses.
Intéressant quand même, comme démarche. Donc, Largo Winch, le prix de l'argent qui est réalisé par Olivier Massé-Depasse, de duel à la pré-production de Mother's Instinct, quelle est la touche Olivier Massé-Depasse dans Largo Winch?
J'en ai déjà un petit peu parlé. Je crois qu'il y a, il y a un côté... Bon, d'abord, il y a un côté esthétique qui est indéniable. Je veux dire, Olivier, c'est un scénariste et un réalisateur qui a une vision, qui a un côté très viscéral dans tout ce qu'il fait. Et dans cette viscéralité, il y a aussi un esthétisme qui lui est propre, qui n'a pas été reproduit sur Mother's Instinct, puisqu'il n'a pas réalisé. Et Et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que justement, cette touche aurait été complètement gommée dans un projet comme ça s'il n'avait pas les rênes du projet. Ici, dans l'Argo, elle y est. Et la touche Olivier, c'est aussi dans un monde où, parce que c'est un film qui est quand même relativement cher, il faut faire énormément de compromis. C'est encore un cinéaste qui va se battre contre chaque compromis. Donc au final, il est gagnant puisqu'il arrive toujours à faire un peu plus que ce qu'il est permis de faire, et je crois que ça se voit vraiment dans le film.
Alors, votre autre travail de scénariste, c'est le film de Fabrice Duvès, Mal d'horreur, là aussi tourné en partie à Marchienne, c'est assez surprenant. C'est le place to be aussi pour les tournages.
Alors, c'était marrant parce que les deux films étaient tournés en même temps. Donc, c'est-à-dire que quand on tournait dans la carrière à Marchienne, l'équipe technique se faisait,
près du canal.
Il se faisait des signes avec des lampes de poche à l'autre équipe qui était en train de tourner Mal d'horreur en même temps de nuit. Donc c'était assez rigolo.
Fabrice n'aime pas qu'on parle de l'affaire du trou, mais il n'empêche que le pitch, il ressemble quand même, même si on prend l'angle du jeune gendarme qui va investiguer, c'est Anthony Bajon.
Oui, Anthony Bajon. Bah, oui, l'affaire du trou, enfin, ce qu'il y a, c'est que nous... avec Fabrice, on est quand même de la même génération. On a vécu l'affaire du trou à travers des prismes assez différents, mais quand même, ce trauma belge, on est passé complètement... Enfin, il nous a complètement lessivé, comme beaucoup de Belges, d'ailleurs, et pas seulement, puisque la résonance internationale de cette affaire est énorme. Et on avait quand même l'impression que, malgré des projets, des balbutiements, des choses qui ont été faites autour... il manquait un projet vraiment cathartique sur comment faire pour exorciser finalement 25 ans de changements sociaux, puisque moi j'ai jamais laissé jouer ma fille dans la rue sans surveillance à cause de ça, contrairement à ce que moi je faisais quand j'étais gamin. Donc on s'est dit, on a beaucoup parlé de l'affaire du trou, et puis on s'est dit finalement, nous ce qu'on veut faire c'est un film de fiction, parce que honnêtement, l'affaire du trou elle est trop invraisemblable pour être portée à l'écran telle qu'elle. Dans un scénario, tout le monde dit mais ça va pas, ça n'a pas de sens. Et effectivement, la vraie affaire n'a pas vraiment de sens. C'est d'ailleurs toute sa tragédie. Et donc nous, on a décidé de faire vraiment un film de fiction. Alors c'est vrai que les tripes sont là, mais les tripes c'est celles de citoyens en fait qui ont vécu cette affaire, qui l'ont digérée et qui finalement on a imprégné nos personnages de ça, mais de plein d'autres choses aussi. Il y a beaucoup d'influences dans ce film. Enfin, Fabrice travaille beaucoup, avec beaucoup d'influences, puis moi aussi. Et donc, je crois que...
Ce n'était pas la première fois que vous travaillez avec lui. Vous étiez sur Inexorable Script Doctor.
C'est ça, oui. Sur Inexorable, on avait commencé à collaborer ensemble. Mais ici, ça a été vraiment une coécriture de la première ligne jusqu'à la fin. Et là, pour le coup, effectivement, même sur le tournage, on réécrivait encore.
Ah oui. Ouais. Le fait qu'il ait c'est son entourage de comédiens... Laurent, Béatrice, Mélanie, Jackie, ça aide au niveau d'écriture ou on fait chaque fois référence au vécu et...
Anthony, on l'avait en tête très vite. Fabrice n'avait jamais travaillé avec lui. Mais très vite, on s'est dit c'est notre personnage. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on sait que ça va être lui, l'écriture est forcément affectée par ça. Et puis Anthony s'est vraiment imprégné du rôle. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois avant, en cours d'écriture, où il disait, enfin voilà, je sentais qu'il était vraiment déjà très très possédé par ce personnage. Donc là, on ne peut pas décevoir, on doit vraiment faire quelque chose en symbiose avec le comédien. Ce qui se voit dans le film, je crois que c'est beaucoup mieux. Après, bon, les autres rôles, ça peut bouger, étant donné que c'est aussi des petits rôles. Bon, je veux dire, les comédiens qui ont l'habitude de travailler avec Fabrice, bon, il y avait la réunion avec Laurent Lucas. Qui a un rôle un peu plus conséquent, mais sinon, par exemple, Mélanie, elle est très peu là, ou elle était un peu plus là, malheureusement. Le film est déjà long, alors si elle avait dû être là plus longuement, comme c'était prévu à la base, le film aurait fait 3h30.
Alors, autre actualité, c'est votre travail actuellement sur la série Chasseurs de terroristes, basée sur le livre de Lionel D, qui est un ancien inspecteur en chef de l'escadron spécial d'intervention, et Annemie Bult. C'est la prise d'assaut de la maison de Verviers en 2015, qui était occupée par des terroristes. Quelle est la part de réalité et d'actualité que vous avez repris dans la série ?
Ben là, c'est un peu le même travail que sur Mal d'Aurore, mais beaucoup plus à chaud, parce que les attentats, ma foi, bon, ça n'a jamais que... Ça va avoir 10 ans, d'ailleurs, on espère, pour rencontrer cet anniversaire avec la série. Donc, le point de départ, effectivement, c'est la prise d'assaut de cette première planque terroriste en Belgique à Verviers, mais c'est juste le point, c'est le premier épisode. Ensuite, on a 440 jours de traque, principalement la traque d'Abdeslam, qui est le kamikaze de Paris, qui est le seul à ne pas s'être fait sauter, qui a été finalement arrêté à Bruxelles par les unités spéciales. Alors, nous, ce qu'on veut absolument faire avec cette série, c'est rendre aussi hommage aux membres des unités spéciales à travers ce personnage qui n'est pas Lionel Day, même si le livre a été écrit par lui, c'est un livre très autobiographique. On a décidé, encore une fois, comme pour Mal d'Aurore, de créer un personnage de fiction qui lui ressemble, qui a beaucoup aimé, où on est dans la fiction. Parce qu'encore une fois, les faits réels, des fois, sont complètement invraisemblables. C'est toujours pareil, le réel dépasse toujours la fiction. Et donc, là, on voulait aussi fusionner certains personnages. Enfin, on voulait arriver, dès qu'en 6 épisodes, on peut raconter 440 jours en 6 épisodes, c'est quand même un vrai challenge. Et donc voilà, après la série, je pense, Chasseur de terroristes, c'est un titre provisoire, c'est le titre du livre, mais on aura un autre titre pour la série qui n'a pas encore été définie. Et le challenge de cette série-là, c'est vraiment d'arriver à montrer finalement la vulnérabilité de ces gens qui traquent les terroristes, qui sont aussi des victimes, parce qu'ils doivent jouer les fiers à bras, etc. Et c'est leur rôle, ils doivent protéger, servir, mais mentalement, c'est une charge qui est assez lourde à porter.
Alors, des poids lourds qui sont quand même impliqués dans le projet, Adil El Arbi et Bilal Fallah et Mathieu Mortelson. Quelle est la part de chacun dans ce projet ?
Alors, la société de production d'Adil et Bilal ont acheté les droits du livre. Ensuite, ils ont négocié avec Versus...
Jacques-Henri.
Avec Jacques-Henri Broncard pour la coproduction. Et puis, on a fait rentrer d'autres partenaires, notamment Fremantle en Angleterre. Et donc là, ce qui se passe, c'est que Adil et Bilal sont évidemment très occupés par Bad Boy 4, qui sont en train de terminer là pour l'instant. Mais Adil est quand même très impliqué aussi dans l'écriture de Chasseurs.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une vision américaine, vu leur implication dans le cinéma hollywoodien, hein ?
Il n'y a pas vraiment de vision américaine, c'est-à-dire que ce qu'ils apportent, c'est plutôt la vision européenne aux États-Unis. Donc, mais par contre, effectivement, ils savent vendre un projet, ils savent parler aux partenaires, et ils savent, je veux dire, doser les choses peut-être un peu plus à l'américaine. Maintenant, c'est une série d'action, c'est sûr, mais il y a une partie thriller, une partie dramatique qui est très très importante. Et Mathieu, lui, qui participe au processus d'écriture, mais qui sera réalisateur principalement de la série.
Vous avez déjà travaillé sur Terre ensemble, hein ?
Oui, c'est ça. Soil pour Netflix. Ils travaillent bien ensemble, ils se connaissent bien, ils se connaissent depuis très longtemps. C'est des amis d'enfance. Voilà, moi je suis arrivé un peu dans le projet avec Chloé Devic, qui est notre co-scénariste. On est à trois à l'écriture avec Adil qui est là plus avec un regard. Donc on lui soumet des choses, il valide, il apporte ses commentaires, etc. Donc c'est vraiment une writing room assez saine, assez diversifiée aussi, puisqu'il y a un peu de tout, des expériences différentes, des genres différents. Et donc finalement, ça va donner un projet assez singulier, je pense.
Il y a quand même une caractéristique et une de leurs qualités, c'est l'efficacité quand même. Ça, je crois qu'on ne peut pas la nier. Et même Mathieu aussi, dans sa mise en scène, son montage, c'est aussi important quand même.
Ouais. Après, j'ai envie de dire, en Belgique, on n'a pas le choix. On doit être efficace. On n'a souvent pas les budgets de grosses productions internationales, même si ici, je crois que le budget est quand même conséquent pour une série de 6 épisodes. On est bons partenaires. Et donc finalement, je pense que ça va être, oui, effectivement, très efficace. 6 épisodes, je crois que personne ne va s'ennuyer. Mais en même temps, l'idée, c'est pas non plus de faire une série boum boum. C'est pas l'idée, puisque ça, Adil et Bilal peuvent se défouler dans les Bad Boys et compagnie pour faire ce genre de choses. Au contraire, quand ils veulent faire ce type de projet en Belgique, c'est justement pour explorer d'autres facettes.
C'est un peu une rigueur à la 1986, la série.
1985, la série. Il y a ce type de rigueur, c'est sûr, mais nos partenaires d'ailleurs sont aussi la VRT et la RTBF qui sont impliqués dans le projet, qui viennent de monter sur le projet. Donc il y a ça, mais je veux dire, c'est une continuité plutôt par rapport à 1985. Mmh. Donc là, ils ont fait une série qui a été très très populaire, qui a bien marché, avec une dimension reconstitution, même si elle est plus ancienne. Il y a aussi les unités spéciales dans 1985, le groupe Diane à l'époque, nous c'est l'évolution de ça. Mais ils ont aussi appris énormément, les partenaires de cette série, et donc il y a des erreurs qui ne vont pas être reproduites ici. Donc voilà, nous aussi on a vu la série, on va se positionner aussi par rapport à ça. Et au final, oui, il y a une certaine forme de continuité, même si les projets, en fait, en termes de production, ne sont pas du tout reliés.
Alors, une dernière question. Vous aviez créé, il y a quelques années, je crois, un jeu de cartes aide aux scénaristes. C'est ça. Est-ce que vous jouez avec vos cartes pour...
Oui, en fait, je l'utilise dans tout ce que je fais. Donc, ça s'appelle Storytricks. C'est disponible en ligne sur l'adresse storytricks.cards. C'est en anglais pour l'instant, mais c'est 5 decks de cartes pour développer des histoires. Donc ça part des intentions jusqu'à la structure narrative, la construction de personnages, les genres, l'empathie, et j'en passe. Et c'est vraiment, pour moi, j'utilise mes propres outils. Donc à la base, j'ai créé ces outils-là pour moi-même. Et puis finalement, à force de travailler avec des gens qui m'ont dit « mais tu devrais les commercialiser puisque c'est vraiment utile », je l'ai fait. Aujourd'hui, ça marche relativement bien et je les utilise sur chacun de mes projets. Et après, voilà, c'est... Parce que moi, c'est vrai que je suis dans l'industrie du cinéma depuis quand même assez longtemps, depuis 1999. Et j'ai travaillé un peu partout dans cette industrie. Enfin, je ne suis pas un maker dans le genre, je ne suis pas réalisateur, ce genre de choses, mais j'étais dans la presse cinématographique, et puis j'ai fait du transmédia, je fais du jeu vidéo, j'en fais toujours. Donc là, ne fût-ce que cette année, j'ai un jeu qui est sorti au mois de mars, quand même un jeu à 25 millions de dollars, qui s'appelle Outcast New Beginning, basé sur ces cartes. Donc j'ai utilisé ces cartes pour construire le jeu. Maldoror a été construit avec les cartes, Largo Winch aussi, la série Chasseurs de terroristes également. Donc, pareil, c'est de l'efficacité. Moi, je pense que tous les outils doivent servir à ça, à prendre des raccourcis et puis arriver à un résultat le plus vite possible et à un meilleur résultat possible.
Dominique Laportin, un grand merci. Donc, on rappelle votre première actualité à avoir le jour. Donc, c'est Largo Winch, le prix de l'argent qui sort le 7 août. Merci à vous.
Merci.